16 juillet. L'image du moi, source de douleur. Pourquoi cette division entre problème majeur et problème mineur? Toute chose n'est-elle pas un problème? Pourquoi faisons-nous d'elle un grand problème ou un petit? Un problème essentiel ou un problème sans importance? Si nous parvenions à comprendre un problème, un seul, à l'étudier à fond, qu'il soit grand ou petit, alors nous éluciderions tous les problèmes. Et ceci n'a rien d'une réponse rhétorique. Prenez un problème quelconque. La colère, la jalousie, l'envie, la haine, elles nous sont toutes très familières. Si vous explorez la colère à fond, au lieu de l'écarter, alors, qu'est-ce que cela implique? Pourquoi est-on en colère? Parce qu'on vous a blessé? Parce qu'on vous a fait une réflexion méchante? Mais quand on vous fait une remarque flatteuse, vous êtes content? Pourquoi est-on blessé? À cause de l'importance que l'on s'accorde, n'est-ce pas? Pourquoi nous donnons-nous tant d'importance? Parce que nous nous faisons une idée de nous-mêmes. Nous avons un symbole, une image du moi. L'image de ce qu'il faudrait être, de ce que nous sommes ou de ce qu'il ne faut pas être. Pourquoi se crée-t-on une image de soi-même? Parce qu'en réalité, on n'a jamais examiné ce que l'on est. Nous pensons qu'il faut être ceci ou cela, l'idéal, le héros, l'exemple. Ce qui déclenche la colère, c'est que notre idéal, l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, soit attaquée. Et l'idée que nous avons de nous-mêmes est notre moyen d'éluder un fait, la réalité de ce que nous sommes. Mais lorsque vous observez votre réalité propre en tant que fait, personne ne peut vous blesser. Alors, si vous êtes menteur et que quelqu'un vous traite de menteur, cela ne signifie pas que vous soyez blessé. C'est un fait. Mais si vous prétendez ne pas être menteur et qu'on vous accuse de l'être, vous êtes en colère, vous devenez violent. Nous vivons donc sans cesse dans un monde idéalisé, un monde de mythes, et jamais dans le monde réel. Pour observer ce qui est, pour le voir vraiment, pour se familiariser avec ce qui est, il ne doit y avoir ni jugement, ni évaluation, ni opinion, ni peur. . 17 juillet. Le plaisir pervers. Le sadisme existe. Savez-vous ce que ce mot signifie? Un écrivain, le marquis de Sade, raconta dans un de ses livres l'histoire d'un homme qui prenait plaisir à faire souffrir et à regarder souffrir ses victimes. Telle est l'origine du mot sadisme, qui signifie le fait d'éprouver du plaisir devant la souffrance d'autrui. Certaines personnes éprouvent une étrange satisfaction au spectacle de la souffrance. Observez-vous et voyez si vous éprouvez ce sentiment. Il peut ne pas être évident, mais s'il est présent, vous constaterez qu'il s'exprime dans le rire qui se déclenche impulsivement lorsqu'on voit tomber quelqu'un. On a envie de voir les puissants abattus. On critique, on fait des commérages inconséquents. Tout cela est l'expression d'une insensibilité, une espèce de désir de faire du mal aux autres. On peut blesser autrui délibérément, vraiment exprès, ou on peut le faire inconsciemment, d'un mot, d'un geste, d'un regard. Mais dans un cas comme dans l'autre, on cède au désir de faire mal à quelqu'un. Et rares sont ceux qui renoncent définitivement à ce type de plaisir pervers. . 18 juillet. La véritable éducation. L'esprit crée à partir de l'expérience, de la tradition, de la mémoire. L'esprit peut-il, bien qu'il vive des expériences, se libérer de tout réflexe de stockage? Comprenez-vous la différence? Ce qu'il faut, c'est non pas cultiver les souvenirs, mais se libérer du mécanisme d'accumulation de l'esprit. Vous me blessez, ce qui est pour moi une expérience, et ma mémoire emmagasine cette blessure. Et cela devient ma tradition, et c'est en m'appuyant sur cette tradition que je vous regarde. Je réagis en fonction de cette tradition. C'est le mécanisme quotidien de mon esprit et du vôtre. Est-il donc possible que, bien que vous me blessiez, ce mécanisme d'accumulation ne se déclenche pas? Les deux mécanismes sont entièrement différents. Si vous avez envers moi des mots durs, cela me fait mal. Mais si aucune importance ne leur est accordée, ils ne deviennent pas la base sur laquelle se fondent mes actions. Je peux vous aborder à nouveau l'esprit frais. C'est cela, l'éducation véritable, au sens profond du terme. Parce que, alors, bien que je constate l'effet de conditionnement induit par l'expérience, l'esprit n'est pas conditionné. Juillet. La colère abolie. Nous avons tous, j'en suis sûr, essayé de venir à bout de la colère, mais nos efforts semblent impuissants à la faire disparaître. Peut-on dissiper la colère autrement? La colère peut surgir pour des raisons d'ordre physique ou psychologique. Nous sommes en colère peut-être parce que nous sommes en situation d'échec, que nos défenses s'effondrent ou que notre sécurité, si soigneusement préservée, se trouve menacée et ainsi de suite. La colère nous est familière à tous. Comment faire pour comprendre et dissiper la colère? Si vous estimez que vos croyances, vos conceptions et vos opinions sont de la plus haute importance, alors vous ne pouvez que réagir violemment quand vous êtes mis en question. Mais si, au lieu de s'accrocher aux croyances et aux opinions, on commence à se demander si vraiment elles sont essentielles à notre compréhension de la vie, alors la compréhension des causes de la colère abolit celle-ci. Et ainsi commencent à céder nos résistances, causes de tant de douleurs et de conflits. Il faut là aussi faire preuve de sérieux, de ferveur. Nous sommes habitués à nous maîtriser pour des considérations sociales ou religieuses, ou par confort personnel. Mais pour déraciner la colère, il faut une lucidité extrême. Vous dites que vous êtes en colère quand vous apprenez des injustices. Est-ce parce que vous aimez l'humanité, parce que vous êtes compatissant? La compassion et la colère font-elles bon ménage? Peut-il y avoir justice lorsqu'il y a colère et haine? Vous êtes peut-être en colère à la pensée de l'injustice en général, mais votre colère ne change rien à l'injustice ou à la cruauté. Elle ne peut être que nocive. Pour que vienne l'ordre, vous devez être vous-même prévenant, compatissant. Toute action dictée par la haine ne peut qu'engendrer une haine plus grande. Rien de juste ne peut exister là où la colère règne. Justice et colère font mauvais ménage. Juillet. Le pardon n'est pas la véritable compassion. Qu'est-ce qu'être compatissant? Trouvez-vous-même, cherchez à savoir si un esprit qui est blessé ou qui peut l'être est jamais capable de pardonner. Un esprit vulnérable aux blessures peut-il pardonner? Et cet esprit qui est vulnérable, qui cultive la vertu, qui est conscient de sa propre générosité, peut-il être compatissant? La compassion, comme l'amour, n'est pas du domaine de l'esprit. Lorsqu'il manifeste de la compassion ou de l'amour, l'esprit n'a pas conscience de lui-même. Mais dès qu'on pardonne consciemment, l'esprit met à profit sa propre blessure pour renforcer son propre centre. L'esprit qui accorde son pardon consciemment ne peut jamais pardonner. Il ne connaît pas le pardon. Il pardonne pour éviter de nouvelles blessures. Il est donc fondamental de découvrir pourquoi, au juste, l'esprit se souvient. Pourquoi il stocke les souvenirs? C'est parce que l'esprit ne cesse de vouloir s'agrandir, prendre de l'ampleur, être quelque chose. Lorsque l'esprit est prêt à renoncer à être quoi que ce soit, prêt à n'être rien, absolument rien, alors dans cet état naît la compassion. Dans cet état, il n'est ni pardon, ni blessure. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre le développement conscient du moi. Donc, tant que nous cultiverons de manière consciente quelques tendances particulières, quelques vertus particulières que ce soit, il ne pourra y avoir ni amour, ni compassion. Parce que l'amour et la compassion ne sont pas le fruit d'un effort conscient. Juillet. l'éventualité de la douleur exclut l'amour. Celui qui s'interroge veut savoir comment il peut agir librement, sans autocensure, alors qu'il sait que son action va inévitablement heurter ce qu'il aime. Aimer, en réalité, c'est être libre. Les deux partenaires sont libres. Si la douleur est possible, si une éventuelle souffrance est envisageable dans l'amour, ce n'est pas l'amour, ce n'est qu'une forme subtile de possession, de mainmise. Si vous aimez quelqu'un, si vous l'aimez vraiment, il est tout à fait exclu que vous puissiez le blesser en faisant une chose que vous estimez juste. Ce n'est que lorsque vous voulez que l'autre agisse à votre guise ou qu'il veut que vous agissiez à sa guise qu'il y a souffrance. Autrement dit, vous avez envie qu'on vous possède, vous vous sentez rassuré, sécurisé, à l'aise. Tout en sachant que cette sécurité n'est qu'éphémère. Vous vous abritez dans cette situation confortable et transitoire. Donc, tous les efforts que l'on déploie dans le but d'être rassuré et encouragé ne font en réalité que trahir une absence de richesse intérieure. Donc, tout acte qui tient l'autre à distance, à l'écart, suscite naturellement le désordre, la douleur et la souffrance. Et l'un des deux partenaires, pour s'adapter à l'autre, doit refouler ce qu'il ressent vraiment. Autrement dit, cette répression permanente, dictée par un prétendu amour, détruit les deux partenaires. Dans ce type d'amour, il n'y a pas de liberté. Ce n'est qu'un asservissement subtil. Juillet. La nature du piège. La douleur résulte d'un choc. C'est l'ébranlement momentané d'un esprit installé, ayant accepté la routine de la vie. Quelque chose survient. Une mort, la perte d'un emploi, la remise en cause d'une conviction privilégiée, et l'esprit est perturbé. Mais que fait l'esprit perturbé ? Il essaye de retrouver une tranquillité. Il se réfugie dans une autre croyance, dans un travail plus sûr, dans une nouvelle relation. Les vagues de la vie reviennent bientôt briser ses protections, mais l'esprit rebâtit très vite de nouvelles défenses, et cela continue. Ce n'est pas une façon de faire très intelligente, ne trouvez-vous pas ? Nulle forme de contrainte, extérieure ou intérieure, ne sera d'une aide quelconque, n'est-ce pas ? Toute contrainte, si subtile soit-elle, est l'issue de l'ignorance. Elle naît du désir de récompense ou de la crainte de la punition. Comprendre la nature du piège dans son ensemble, c'est s'en libérer. Aucun être, aucun système ne peut vous libérer. La vérité contenue en cela est le seul facteur de libération. Mais vous devez le découvrir vous-même. Vous ne pouvez pas simplement en être persuadé. Il vous appartient d'entreprendre ce voyage sur une mer inconnue.